Alors, la semaine dernière, est-ce que vous m'entendez ? La semaine dernière, on avait dégagé ensemble ce que j'avais nommé les prolégomènes de l'étude de la laïcité et sous trois axes. D'une part, une certaine perméabilité qui était visible surtout dans l'Empire romain jusqu'à l'arrivée des derniers empereurs chrétiens qui avaient bouclé en quelque sorte. Puis, un autre axe qui était la distinction entre César et Dieu, en quelque sorte, à partir de la cité de Dieu de Saint-Augustin. Et donc, il y avait déclenché, en quelque sorte, en contrepartie, une espèce de vision uniquement césarienne de l'Église catholique qui était devenue une sorte d'Église... Il y a eu un état d'Église unique. Et ensuite, donc, la notion de contrat. Notion de contrat qui s'était dégagée au moment des guerres de religion, puisque parallèlement, c'était découvert dans un certain nombre de villes, notamment des villes de la région, de la vallée du Rhône, exactement. C'était si on avait signé des pactes d'amitié entre catholiques et protestants, et sur un terrain neutre, en quelque sorte, puisqu'on n'avait pas fait référence à Dieu. Et donc est apparu vraiment un espace de laïcité très bref, puisque après il y avait eu, bien sûr, l'édit de Nantes. Donc en 20 ans, on avait pu penser qu'il y aurait une vision nouvelle de la société, une vision neutre de la société. Mais vous savez qu'avec les guerres de M. de Rohan, et les guerres de Richelieu contre les protestants avaient fait long feu, et sous Louis XIV, on était revenu à la notion d'une église d'État avec la révocation, et qu'aujourd'hui, le XVIIIe siècle, on était arrivé à tourner en quelque sorte un État totalitaire où il fallait bien sûr ne pas broncher, rappelez-vous, l'affaire du chevalier Tabard. Et donc, en 1787, et signé un second traité de tolérance, mais bien en retrait par rapport à celui à l'édit de Nantes. Simplement, cet édit de tolérance constatait que les protestants pouvaient faire eux-mêmes, tenir un répertoire des naissances et des décès, et bien entendu des mariages. Alors, lorsqu'arrive la convocation des États généraux, on est encore donc dans une ambiance de religion d'État. À tel point que même au printemps suivant, en 1790, les catholiques nîmois, ou du moins ceux qui parlent au nom des catholiques nîmois, c'est-à-dire en fait quelques membres du clergé, et puis des gens de la basoche, des avocats, des procureurs qui suivent un certain Froment, se crispent en quelque sorte sur la notion de religion d'État. Alors, face à cette religion d'État, quelle va être justement l'attitude et des révolutionnaires puis après de Napoléon? Tout d'abord, tenter d'instituer une religion nationale, et donc sous la Révolution française, il y aura d'abord l'Église constitutionnelle, le clergé constitutionnel, puis après l'être suprême, puis ensuite on tentera de faire une première tentative de séparation d'Église et de l'État. Et enfin, donc, pendant tout le XIXe siècle, la situation apparaîtra figée avec le Concordat, mais nous verrons qu'elle n'est pas si figée que ça. L'histoire ne ferme jamais aucune parenthèse. Et la parenthèse ouverte sous la Révolution, eh bien, ne sera jamais fermée complètement. Donc, nous allons voir en trois parties cette séance. Tout d'abord, premièrement, la tentation d'une religion nationale. Puis, y a-t-il eu une révolution culturelle? Et enfin, entre le concordat et l'idée de séparation. Et bien tout d'abord, la tentative de religion nationale. Lorsque Louis XVI convoque les États généraux, il convoque les gens en leur demandant de rédiger des cahiers de doléances, plaintes et remontrances. C'est-à-dire que les cahiers rédigés à l'occasion des états généraux ne représentent pas un état de la France, un bilan de la France, mais ces cahiers de doléances se présentent qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait problème. Donc, est-ce que les protestants font problème? Eh bien, pour les 9/10 des Français, absolument pas. On leur a donné le droit d'exister. Point barre. La religion, regardez l'opinion des Nîmois en 1790, la religion, c'est l'Église catholique, point final. Bon, les autres ont le droit de dévier un petit peu, de se baptiser, point c'est tout. Donc, dans l'écrase en majorité, on va réclamer, enfin, les cahiers peut-être les plus avancés, ce qu'on appelle les cahiers les plus proches des Lumières, demanderont une liberté individuelle, ce qui n'est pas pareil, hein, mais apparaît le mot individu et individuel. Je prends pour exemple le président de Moulins qui dit on est homme et citoyen avant d'être prêtre, noble ou magistrat. Donc ce qui importe au moment de la convocation des états généraux, c'est de laisser l'individu, hein, la liberté de l'individu. Par contre, le clergé, bien sûr, se crispe sur une défense de la religion. D'ailleurs, ce texte est plus tardif, de 90. La religion, c'est l'Église d'État. Et si l'on prend maintenant les cahiers du Gard, à ce moment-là apparaît plusieurs revendications. Tout d'abord, comme dans quelques rares cahiers qui sont plutôt dans le reste de la France, tout d'abord le droit pour les protestants. Pardon, excusez-moi. Le droit de faire disparaître la majorité des couvents comme inutile à l'État. Alors, il y a toujours cette référence, la majorité des couvents. Ils ne disent pas tous les couvents d'ailleurs, parce que les enseignants et les hospitaliers et hospitalières sont utiles, donc on ne les fera pas disparaître, mais de faire disparaître la majorité des couvents comme inutile. Alors, si l'on prend maintenant les régions comme le Gard, à cette revendication, on va ajouter quand même la liberté religieuse. C'est donc surtout dans les régions mixtes qu'apparaît cette revendication de liberté religieuse. Donc, je prends par exemple Brignon dans le Gard. La liberté de penser étant un droit naturel à l'homme, Sa Majesté doit être suppliée d'accorder aux non-catholiques la liberté de conscience et l'exercice de leur religion toutes les fois qu'ils n'auront rien de contraire à la morale. Et cette liberté d'exercice de la religion sera bien sûr explicitée par Arnaud Saint-Étienne à Nîmes. Et ça apparaîtra bien sûr l'article 10 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, cette liberté de penser, la liberté de religion, surtout d'exercice de la religion, on la voit surtout que dans les régions à population mixte. Également, ce qu'on va demander, c'est que toutes les professions, sans exception, soient accessibles à tout le monde. Il faut vous dire que donc, jusqu'à la Révolution française, hein, et donc, après les cahiers d'audience, mais après, le protestant n'a pas le droit d'exercer n'importe quelle religion.
Profession.
Alors, les premières mesures concrète, disons, ce sera fin décembre 89, d'une part une nationalisation de l'Église, c'est-à-dire la mise à la disposition de la nation des biens de l'Église. Il faut se rappeler que c'est un évêque qui a mis ces biens du clergé à la disposition de la nation. Et la deuxième disposition, ça sera pour les protestants, pour accorder le droit de vote, en décembre 89 seulement, hein, décembre 89, et donc pour les prochaines élections. En fait, le droit de vote uniquement masculin. Hein. Alors, on en arrive donc en 1790, avec cette description que font les catholiques nîmois, du moins ceux qui prétendent parler en leur nom, hein, c'est-à-dire un certain nombre de personnages. Un certain nombre de catholiques, surtout, je veux dire, membres du clergé et des membres de magistrats et avocats. Donc ils vont assurer leurs revendications sur le fait que le siège épiscopal de Nîmes est très ancien. Toujours l'argument d'ancienneté, hein, et ça c'est, ça sera même encore sur la Révolution française, l'argument essentiel c'est l'ancienneté et la continuité. Hein, la continuité, hein, une chaîne continue. Et alors, bien sûr, la position vis-à-vis des protestants sera l'erreur. Hein, des protestants, c'est l'erreur, c'est ceux qui profanent. Hein, et c'est donc une sorte de, même d'invasion, hein, à un moment donné, par de l'usurpation. Il parle de partie du ballon d'oc, parce que quand il venait, il faut travailler à l'infection. Hein, une infection. Infection, profanation. Il n'y a que, ne doivent vivre finalement que les catholiques en quelque sorte. Alors, en fait, ça va aboutir à Nîmes, vous le savez, à ce qu'on a appelé la grande bagarre. J'insisterai pas sur la grande bagarre, qui est surtout un événement politique, hein, plutôt qu'un événement qui est en jeu la religion et la laïcité. Grande bagarre de Nîmes, donc il faudra plusieurs dizaines, voire même centaines de morts, hein, et qui se déroule du 13 au 16 juin 90. Eh bien, malgré ces récriminations des catholiques nîmois et de certaines autres villes d'ailleurs, hein, la constitution civile du clergé sera votée en juillet 90. Hein, elle sera condamnée, vous savez, par le pape l'année suivante. Eh bien, c'est après des débats dont je ne vais pas parler ici. Sur le plan local, comme sur le plan national, il va y avoir, donc, vous savez, un schisme entre deux clergés, dont un clergé constitutionnel, composé de prêtres jureurs ou assermentés, et un clergé réfractaire. Le clergé constitutionnel, lui, reste en fonction et participe à la vie de la cité. Par exemple, à Nîmes, le 6 janvier 93, au moment où juge le roi, eh bien, l'évêque constitutionnel du Gard participe au cortège de l'installation de la nouvelle municipalité. Le 4 mai 1993, les officiers municipaux sont invités à participer à la procession des rogations, c'est-à-dire une procession pour demander l'appui. Il faut attendre la fête de l'unité et indivisibilité de la République le 10 août 1993, voire la première fête purement laïque. Donc, je répète, août 1993. Eh bien, à ce moment-là, va éclater ce que certains vont appeler une révolution culturelle, c'est-à-dire la déchristianisation. Donc, été 93 se répand de plus en plus des idées contre la religion et plus particulièrement contre l'Église catholique. Voici un texte qui est tiré du courrier du Gard sous la signature AC et qui date, lui, d'un peu plus tard, qui date de octobre, je crois bien, depuis la date bizarre. Octobre 93. Le problème de Dieu, vous savez, se pose au XVIIIe siècle. Avant, on ne se pose pas. À partir du XVIIIe siècle, l'existence de Dieu, ça se pose vraiment. Et en même temps, donc l'acquis des philosophes est interprété. Et voyez, c'est l'auteur de ce texte, de cet article de journal, qui fait allusion à la fermeture de l'église de Polyte, hein, de Montpolyte, hein, Saint-Hippolyte du Fort, Montpolyte. Eh bien, cet auteur s'adresse en quelque sorte à tous les croyants de toutes les sectes, hein, et leur dit que dans le fond, nous sommes tous issus d'une même source et nous allons tous dans le même océan. C'est-à-dire qu'il fait en quelque sorte, il se range un petit peu dans une aspiration un peu spinoziste finalement, hein, nature naturante, nature naturée, nous sommes tous fils, nous sommes tous enfants de la nature, hein, et non pas d'une force extérieure. Et alors, vous voyez qu'il fait un appel, bien sûr. Regardez la dernière phrase. « Citoyens du Gard et du Vaucluse, peuple français, c'est à toi qu'il est réservé de soulever le genre humain contre le despotisme, la noblesse physique, au sens de noblesse pécuniaire, la noblesse physique, et l'hypocrisie sacerdotale. On retrouve là le vieux thème des rois, des grands, des prêtres, hein, les trois ennemis, les grands, les rois, les prêtres. Et on va délivrer en quelque sorte souvent l'être suprême de cette hypocrisie et de cette dictature des grands, des rois, des prêtres. Donc, en fait, tout un courant, hein, déchristianisateur va agir à partir de fin d'été, automne 93. En fait, il n'agit pas sur ordre du gouvernement. Il n'y a pas de. Ça n'est pas coordonné par le gouvernement, ni par le comité des services publics, ni par la convention. Enfin, c'est pas la convention qui a lancé, qui a décrété tout ça, qui a voté tout ça. En fait, ce sont des événements extérieurs au pouvoir exécutif et législatif. Ici, il s'agit donc soit de représentants de mission, comme notamment vous connaissez peut-être Fouché, hein, Fouché qui dans la Nièvre et la Yée, fera inscrire notamment ce cimetière, la mort est un sommeil éternel. Ça peut être aussi les armées révolutionnaires, certains contingents de l'armée révolutionnaire, qui par exemple pour aller combattre, renverser les statues, les croix, etc., hein, en quelque sorte laïciser l'espace. Alors ça peut être souvent les sociétés populaires, en général. Les sociétés populaires qui poussent les municipalités à fermer, par exemple, l'église. Alors quelles sont les expressions de cette déchristianisation? Eh bien, d'une part, on laïcise l'espace. On a parlé avec les armées populaires, mais par exemple, les armées révolutionnaires, pardon, mais par exemple, je prends à Troyes, l'église Saint-Pantaléon. Les statues qui étaient à l'extérieur de l'église sont toutes martelées, renversées et tout. Mais l'intérieur a conservé une statuaire du XVIe siècle absolument remarquable, qui n'a pas été touchée. Du moment que c'est à l'intérieur, on ne déchristianisera pas. Donc on déchristianise l'espace. On laïcise, on peut dire, l'espace, plus exactement. On le neutralise. Et bien également, on laïcise le temps. Comment? Eh bien, c'est par le calendrier républicain. Je cite. Dans l'ancien calendrier, tout était l'ouvrage de l'antique superstition. Elle avait adroitement mesuré tout, nommé tout, de manière à assujettir à son empire religieux les usages civils, afin que ces mystères, ces dogmes, ces saints, ces martyrs se trouvent reproduits et, pour ainsi dire, attachés à chaque époque de la durée du temps. Vous connaissez là, bien sûr, les saints qui ornent en quelque sorte les jours, par exemple, Saint Castor à Nîmes, Saint Bodile, mais plus exactement, donc les saints du calendrier, hein, les saints avec lesquels on donnera les prénoms. Également, les mesurer tout, hein, Pâques, également la semaine aussi, la semaine de 7 jours. 7 jours, eh bien, on va passer à la décade, hein, 10 jours, et le dit à décadie. Eh bien, également, donc, l'incitation de l'espace, l'incitation du temps, abdication des prêtres, cette engeance infernale, il se qualifiait de prêtre, hein, dit le courrier du gars, engeance infernale, il se qualifiait de prêtre, dans un autre article. Alors, si on prend la région, si on prend ici, les églises fermées vont donner lieu à l'érection de temples de la raison. Dans le Gard, sur 353 églises paroissiales, 233 deviendront des temples de la raison. Alors prenons un texte des sans-culottes de Clarensac. La société des sans-culottes de Clarensac ne reconnaît d'autres cultes que celui de la raison et de la liberté. En conséquence, nous apportons en son nom les ustensiles protestants, les mascarades catholiques, les dépouilles d'une maison où l'erreur et la superstition étaient à l'ordre du jour. Frimaire en deux. Eh bien, à Paris, des frimaires, on va célébrer la déesse raison à Notre-Dame. Ce qui donne naissance, fait l'élément d'un culte officiel. À côté de ce culte de la raison vont se développer, vous savez, des cultes des martyrs de la Révolution. Arras, hein, Chalier, le Bélier de Saint-Fargeau, qui donnent des noms. À des villes. Par exemple, dans la région, le Gros du Roi devient Fort Pelletier. Bon, là, il ne s'agit pas d'une déchristianisation, mais plutôt on va remplacer un reste de la tyrannie par un martyr. Donc, vous voyez, ce culte des martyrs s'inscrit, lui, dans le paysage. Il s'inscrit également dans les noms des rues. On va donner des noms de rues, Marat, etc., aux villes. Notez également l'importance des nouveaux prénoms, des prénoms révolutionnaires. Si l'on prend, là encore, la, exemple, ni moi, hein, j'avais trouvé plusieurs catégories, parce que, en fait, les prénoms que l'on va attribuer sont plutôt des prénoms donc, issus du calendrier, et surtout des noms donc, de fruits ou de légumes. Très peu, oui, certains légumes sont agréables. Par exemple, une fille Doucette, jolie comme prénom. Hein. Anime, la, au top 10, si vous voulez, c'est quand même Jonquille qui la plante. Hein, donc, il y aura quand même 6 Jonquilles. Il y a des prénoms peut-être un petit peu plus douteux, comme par exemple Ménèse ou Platane pour les garçons. C'est quand même assez difficile à porter. Pour un garçon, un légume radis, c'est mignon. Dernier, pensez-y. Par contre, les héros de la Révolution figureront très peu dans ce vocabulaire. Vous avez surtout Marat. C'est Marat qui est encore. Ça peut se porter comme prénom. Marat est le féminin maratine. Par contre, il n'y aura que 27, écoutez, comme chiffre. 256 prénoms à niveau sur environ 1400 naissances. Je trouve que c'est moins que la région parisienne. Alors, en région parisienne, on atteint largement 30% des prénoms. Ici, donc, on tourne autour de 20-25%, disons. Là-dessus, les prénoms que vous ai dit, les héros révolutionnaires, finalement, comptent pour assez peu, pour 27 prénoms qui sont tirés des héros révolutionnaires. Par contre, c'est des prénoms sont tirés d'Antiquité ici, incontestablement. 77 prénoms d'Antiquité, 256, vous voyez, que la masse. Alors, ça sera quand même César, Dieu merci, il n'était pas révolutionnaire. Voilà. Alors, quand même noter qu'à la même époque, la Convention, elle, établit ou maintient la liberté des cultes. Hein. Donc, beaucoup d'églises vont être fermées, mais quand même, ce n'est pas toutes les églises. Les cultes, officiellement, durant le plan de l'État, n'abolissent pas la religion. Également, on fait abjurer les prêtres. Les prêtres et aussi les pasteurs. On en a parlé tout à l'heure. Eh bien, Robespierre, pour mettre un frein peut-être à cela, et pour également quelque chose de plus logique et de plus cohérent, va instituer ce fameux culte de l'être suprême. Donc, une sorte de religion nationale qui va coordonner sur toute la France. Comment on met ça? Donc, voyons la fête de l'être suprême à Nîmes, plutôt le projet, le programme de la fête de l'être suprême. Si l'on regarde, et ça sort très mal, le plan que Anne-Marie Duport sur le Nîmes révolutionnaire, on va d'abord faire une sorte de procession. Le premier temps sera une procession. Et une procession. Qui part des casernes, même mon laser. Bon. Le lieu de rendez-vous est devant, enfin, à côté des casernes, sur une devant la salle de spectacle. Et alors là, c'est le boulevard Gambetta. Sur le boulevard Gambetta, il y a une statue de la liberté, la déesse liberté. Puis le cortège continue, fait le tour des boulevards, on appelle maintenant une partie du grand tour, contourne les arènes, arrive à l'esplanade, et c'est sur l'esplanade que se déroulera le deuxième temps, c'est-à-dire le culte lui-même. Vous voyez que le trajet de cette procession rend visite à toutes les sections ou presque. Pratiquement toutes les sections, je crois qu'il manque que la 8e section. En fait, elle se rattache à peu près à l'esplanade. La 9e section. La 8e se rattache un petit peu à l'esplanade. Et un peu au casernes aussi. Donc, toutes les sections sont visitées. Également sont visités les monuments romains, puisque l'on passe à côté du jardin Fontaine, on passe à côté de la maison carrée, on longe la maison carrée, on longe les arènes. Hein. Donc, en fait, on rend visite aux Romains. Également, on rend visite aussi aux grands projets d'urbanisme du XVIIIe siècle, qui sont l'ouest de Nîmes, hein, le quartier qui va jusqu'au à l'actuel Jaurès, hein, et l'esplanade qui donne naissance au sud. Il y avait des grands projets de Raymond, notamment, avec surtout le sud de la ville. Donc, on rend visite. Mais en même temps, on va englober, on embrasse en quelque sorte la ville. Hein. C'est un changement très radical par rapport au cortège de l'Ancien Régime, où l'on se contentait de pénétrer la ville, de rentrer dans la ville. Là, on va en quelque sorte l'embrasser. Eh bien, on arrive à voir les qui composent le cortège. Voilà. Alors, est-ce que vous avez gagné demain ?
Non.
Non, on va dans un
tas de peine. Les premiers temps doivent pouvoir se dire, oui.
Mais dans le fond, vous lisez, vous n'arrivez pas. Bon, je lirai peut-être des mots importants. Donc ce cortège commence d'abord par l'armée, plus exactement la garde nationale. Bon, je continue. Puis ensuite apparaissent les quatre âges de la vie humaine. C'est-à-dire que ne défilent pas les gens en corps et communauté, hein, comme sous l'Ancien Régime, où vous aviez les notables, puis les artisans, etc., qui défilaient. Ça, c'est bon. Maintenant, on va défiler selon les âges. Premier âge, l'âge de la vieillesse, puis l'âge mûr, avec les pères de famille qui tiennent leurs enfants par la main, hein, c'est-à-dire symbole de l'éducation, et que la première éducation est celle de la famille, hein, et des pères de famille. Notez aussi que sur ces chars, ne sont, pour l'âge mûr, ne sont que des gens mariés. Hein. Les célibataires sont en quelque sorte un peu exclus sur la marge. Et ensuite, troisième âge, qui est la jeunesse qui combat. Quatrième âge, l'enfance. Donc, disparition des métiers, des corps, des métiers. Sauf un char qui représente le char qui représente l'agriculture. Et ce char a un certain nombre d'inscriptions sur ces quatre côtés. Alors, vous voyez, je vais peut-être dégager le principal. Les États sont égaux, hein, les hommes sont frères. La première sentence, on peut dire, sur la fraternité. Deuxième sentence, la France ne voit plus de pieux fainéants. Vous voyez tout de suite, ce sont les pieux fainéants en question, hein, pas la peine de développer. Faire à Dieu, serment. Ça rappelle un serment. Serment à la Constitution, les autres qui n'avaient pas prêté de serment. Serment à Dieu de vivre à nos dépens. Hein. Ensuite, la troisième sentence, qui est une sentence de la paresse, hein, la paresse qui est la rouille, et donc, en fait, appel au travail, hein, travailler plus pour gagner plus.
Déjà.
Le mépris, hein, et l'ennui sont nés de la mollesse. Hein. Oui, ça tout le temps à la télé, ça serait. Le mépris et l'ennui sont nés de la mollesse. La quatrième sentence, elle, tout est pauvre d'usage. Hein. Dieu, voyez encore, donc, se centrer sur Dieu. Et non pas tellement le vocable être suprême va très peu apparaître très peu à nous. Dieu vous comble de ses présents. Hein. Alors, voulez-vous être son image? Voulez-vous être son image? Soyez pas Soyez comme lui, le mieux ça s'appelle que Dieu. Soyez comme lui, bien fait ça. Donc, en fait, ce char de l'agriculture rappelle bien sûr le grand courant des physiocrates, mais l'agriculture est un véritable mythe en quelque sorte en France. C'est actuellement justement à ce salon d'agriculture qui vient de se terminer, qui passe pour être vraiment l'événement pratiquement le plus considérable de l'année, pratiquement, comme exposition. Donc une position absolument mythique en quelque sorte de l'agriculture. Et je ne veux pas le contraire, l'agriculture est un rôle considérable en France, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, ça atteint un niveau quasiment mythique dans l'esprit. Alors, ensuite, arrivé sur l'esplanade, se déroule la cérémonie. Cette cérémonie, alors, je n'ai pas vu avant. Alors, ça que le nécessaire l'ordre du cortège qui montre donc une représentation, une auto-épiphanie de la société. Vous voyez donc le char de l'agriculture étant le char de l'agriculture entouré des magistrats et du peuple. Et puis donc toutes les juridictions après, et la plus... ça se termine par les citoyens donc qui ferment la marche. Bon, vive le modernisme.
Ah, non, mais les chars, mais... Ah non, ça va. Bon, les chars, c'est parce que c'est tout, mais on ne va pas. Ça devrait se bien plus.
Voilà, c'est ça. Donc, la cérémonie a lieu sur l'esplanade. On note toujours que les fêtes révolutionnaires se font dans des endroits assez vastes, bien sûr, et nus, où on va installer tout un décor de l'Antiquité, avec colonnades, là, avec, vous voyez, obélisque, et également un portique, et aussi un autel. Oui, mais tu faisais monter un petit peu. Alors, en quoi consiste cette cérémonie ? Tout d'abord, à Nîmes, il n'y aura pas de montagne. Alors qu'à Paris, vous vous rappelez que Robespierre était monté, avait escaladé les montagnes qu'on avait fabriquées, pour lesquelles on sur le champ de Mars. À Nîmes, pas de montagne. On aurait pu escalader jusqu'à la Tourmaline. On aurait pu faire une belle cérémonie à la Tourmaline. Donc, on fait l'escalade, mais pas de montagne. Également, il n'y a pas, dans cette cérémonie, il n'y aura pas ni clergé, ni sacrificateur. Je vous rappelle qu'à Paris, Robespierre avait donné le départ à la cérémonie en détruisant la statue de l'athée. Pas de destruction de statut d'athéisme sur l'île. Donc vous voyez déjà certaines divergences, des choses très différentes qui peuvent se dérouler au cours de cette même cérémonie. L'être suprême n'a pas sécrété un clergé particulier. Qui agit ? Eh bien, il s'agit d'un vieillard qui, donc, autour de ces inscriptions, enfin, dans ce plume qui est délimité par ces inscriptions, va faire une cérémonie qui consiste surtout à montrer différentes récoltes, différents fruits et fleurs à des enfants. Il leur fait un beau sermon un petit peu dans le genre Rousseau, portant la main à la poitrine, élevant sa main vers le ciel, et à la fin, donc, les enfants, pleins de gratitude, pour lui sauter au cou et l'embrasser comme du pain chaud. Et les magistrats vont s'embrasser et même tous les citoyens, l'ensemble des citoyens va se donner le baiser de paix dans une atmosphère, vous voyez, très romanesque en quelque sorte. En fait, on passe là à ce que j'avais dit je vous avais parlé la semaine dernière de la première génération, de la génération des premières lumières, exactement. Et là, on est à la génération des secondes lumières. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur la stricte raison, on n'est plus sur les lumières, la stricte raison, on passe vers on tempère un peu cette raison par de l'émotion, une grande forme d'émotion. Et là, il y a vraiment un changement dans la culture et dans les... Je n'ai pas bien ce mot de mentalité. Comment interpréter tout ça ? Y a-t-il une base de laïcité là-dedans ? Eh bien, il y a quand même des éléments de laïcité. Par exemple, le fait que ce soit dans un espace neutre, la rue. La rue, il est place. Il n'y a pas un espace réservé. On va construire spécialement un templo, c'est-à-dire un espace sacré. Et sinon, après, on le démolira. Ensuite, il n'y a pas de clergé. Pas de sacrificateur. Les magistrats ne vont pas faire de discours, ne font pas de discours. Contrairement à beaucoup d'autres fêtes. Le maire ne fera pas de discours, il ne fera pas des discours d'officiers militaires, etc. Également, sur le char de l'agriculture, on promène le calendrier républicain. C'est donc pour marquer encore la neutralité du temps. Donc il y a bien incontestablement des éléments de neutralité qui penchent vers une laïcité. Mais inversement, c'est le culte de l'être suprême. Et voyez qu'à Nîmes, on prononce le mot de Dieu. Regardez le nombre de fois que l'on va parler, qu'on parle de Dieu. Adorons le Dieu de l'univers. Dieu ne nous peut pas lire. Alors, ensuite, sur le de gauche, donc on ne voit pas. Il y a encore, vous voyez, dans nos jours passagers, enfants du même Dieu, vivons du moins frères. Et toujours on insiste sur cette notion de fraternité. Et puis alors, ce Dieu forme un homme libre. Et alors,
autre pilastre également. Vous voyez sur chaque pilastre, vous avez le mot Dieu, et simplement sur la frise de l'Arc de Triomphe, on voit apparaître l'être suprême. Hein. Sept fois Dieu pour une seule fois être suprême. Je rappelle que la fête est officiellement fête de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Attention, immortalité de l'âme, c'est différent de la notion de vie éternelle chrétienne. Hein. Immortalité de l'âme, par exemple, pour Saint Just, l'immortalité de l'âme, c'était dans la mémoire des successeurs. Hein. Alors, s'agit-il, comme le dit Michel Vauvel, d'une communion rêvée? Communion certainement, ils sont vrais, mais à la fin ils s'embrassent tous, hein. Le monde s'embrasse. Communion rêvée, moi j'aime pas bien ce mot de rêver, je préférais le mot communion utopique. Parce que le rêve, on va le subir, hein. Le rêve on le subit chaque nuit, il peut être agréable, il peut être désagréable, etc. Enfin, on n'agit pas tellement sur le... Essayez de conduire un rêve, vous n'arrivez pas. Essayez de rêver la suite de votre rêve, vous n'arrivez pas. Tandis que là, il s'agit plutôt d'une utopie, c'est-à-dire, bon, elle n'est pas matérialisée cette utopie, mais elle mobilise, hein, c'est nous qui la créons, et elle mobilise pour peut-être se produire dans des temps futurs et lointains. Alors, en fait, c'est un ordre moral nouveau pour valoriser l'ordre politique qui vient d'être installé. Eh bien, quand passe-t-on à la notion de premier niveau de laïcité, comme le décrit Bobéro? Eh bien, par la séparation des églises et de l'État. Des églises. En 18 septembre 1994, on supprime le budget des cultes. Et puis, on permet, par contre, aux membres des différentes confessions de célébrer leur culte pourvu qu'ils soient à l'intérieur d'un édifice et qu'il n'y ait pas de manifestation extérieure. Je prends l'exemple de Nîmes, 7 Thermidor en 3, c'est-à-dire 25 juillet 1995. Au nom de la Société des protestants, on sait que c'est les protestants qui écrivent à la municipalité, au nom de la Société des protestants, ils étaient dans l'intention de célébrer leur culte à partir du grand couvent que la nation a vendu aux citoyens à Vasse. Ils promettent, tant pour eux que pour leurs commettants, la plus parfaite soumission aux lois de la République. Bon, un peu plus tard, 11 prêtres catholiques auront le même, s'adresseront pareil à la municipalité pour pouvoir exercer leur culte. Mais en fait, ça ne s'est pas passé tout seul. Donc je vais. Un trouble avait été dénoncé à Nîmes où des catholiques qui s'étaient réunis dans une église, bien sûr, pour la messe. Et donc le 18 Fructidor en 3, des militaires vont envahir l'église, menacer le curé et menacer les assistants. Ils sont armés, ces militaires sont armés, ils crient, vocifèrent, etc. Et ils empêchent donc la messe de se dérouler. Alors, le conseil municipal qui reçoit cette plainte de ses fidèles, va prendre parti et dire là, effectivement, la laïcité, pas la laïcité, mais la liberté du culte n'est pas respectée, hein, et donc il fait suivre sur la. Il fait suivre au régiment, voilà. Voilà. Donc le conseil municipal transmet au procureur la plainte des fidèles catholiques et les militaires, les gradés, donc font un rapport aussi, hein, disant donc que les soldats ont été égarés, hein, par des malveillants. Ça ne s'est pas passé tout seul, donc c'est ce rétablissement des cultes, hein, et parfois donc des interventions, voire même pire. Il faut vous dire qu'il y a encore des Vendées, comme on dit, dans la région, dans les zones montagneuses, par exemple, et sur le Lorraine. Alors, en fait, ce premier niveau de laïcité, quand même, c'est finalement l'école secondaire, les écoles centrales du département qui jouent un grand rôle dans la pacification et surtout dans l'éducation des jeunes gens. Peux-tu passer et des vocabulaires. Voilà. Donc, ces écoles centrales sont créées, vous savez, dans la lignée de la Canale et Condorcet. Et l'enseignement, il est neutre, enfin, je veux dire neutre comme religieux, mais pas d'enseignement religieux. Et on va au contraire faire un enseignement, on pourrait appeler positif.
Et à la fin de l'année, vous savez, on va récompenser les bons, les bons élèves travailleurs, et se déroule ce qu'on appelle les distributions des prix. Eh bien, cette distribution des prix se déroule un petit peu comme une fête révolutionnaire. Il y a un cortège, hein. C'est-à-dire qu'un professeur va demander aux administrateurs de participer à la distribution des prix. Donc, ce cortège part de la Maison Carrée, siège de l'administration du département, et traverse la ville pour aller au collège, aussi devant le collège des Jésuites, hein, donc le siège de l'école centrale de Nîmes, l'école centrale du Gard. Il faut noter que ce cortège est armé, et il traverse la ville, c'est-à-dire qu'il tranche, il va trancher la ville. Voilà un nouveau symbole qui apparaît, hein, après le symbole de la royauté, le symbole du tour de ville, qu'on a vu tout à l'heure, là, un autre cortège qui va trancher, en quelque sorte, entre le vrai et le faux, hein, entre le progrès et l'ignorance, etc., etc. Et alors, ces qui sont les prix, vous savez, donnent lieu à avec les discours, et là, j'ai relevé un certain nombre de références et leurs différentes occurrences. Eh bien, si l'on prend le niveau moins de 5 occurrences, on voit le fanatisme, on voit aussi la fraternité, mais on ne voit pas, par contre, l'égalité. Je n'ai pas trouvé le mot égalité dans aucun de ces discours. Si l'on prend maintenant de 5 à 15, on voit des choses plus normatives et plus structurées, hein, avec républicain, patrie, nation, magistrat et loi. Les occurrences les plus nombreuses, eh bien, on voit bien sûr liberté, république et peuple. Là où les vertus, vous voyez que les vertus, on va passer rapidement, les vertus les plus... Les vertus les plus représentées, hein, eh bien, vous allez avoir l'émulation du mot vertu lui-même. Et puis, de 5 à 15, donc on fait encore appel donc, au bonheur, hein, notion de bonheur, notion de morale. Notez que l'enseignement sous la royauté, n'était pas tellement orienté vers le bonheur et le bonheur individuel. Hein. Rappelez-vous la phrase de Saint-Just, hein, le bonheur est une idée neuve en Europe. L'enseignement des Jésuites n'était pas tourné vers le bonheur. Là, on voit citer par les orateurs le mot bonheur et le mot honneur aussi. Alors, morale, hein, il y a religion aussi. Hein. Notez que n'est pas hostile à une forme de religion. On en parle un petit peu. Et vérité. Donc, en fait, jusqu'à l'an 8-9, on se met vraiment sous la bannière de l'Antiquité. Mais à partir de l'an 10, ce sera à une autre référence, c'est Napoléon qui apparaît. Là, je ne les ai pas notés, il y a quelques références à Napoléon en tant que légitimité. Et donc, on passe donc de l'école centrale, la notion d'école centrale, à la notion de lycée que Napoléon institue, vous savez, en 1803. Eh bien, voyant apparaître Napoléon, bien entendu, nous allons parler du concordat et de pour ou contre un concordat, finalement. Qu'est-ce qu'un concordat? Dans le mot concordat, il y a concorde, on se met d'accord, il y a un mot accord également, hein, on se met d'accord. Qui se met d'accord? Eh bien, César, en quelque sorte, César et le pape. On revient à ce vieux dialogue entre César et le pape, donc entre Bonaparte et le pape. Pourquoi? Eh bien, aucun culte... remplacement, si j'ose dire, la Russie, finalement. Le culte de l'être suprême n'a pas survécu à Robespierre. Les cultes des martyrs de la Révolution n'ont pas laissé grande trace. Il y a bien eu une tentative de religion à un moment donné qui s'appelle la théophilanthropie, c'est-à-dire théos, un philène. Aimé, anthropos, l'homme, hein, le Dieu ami de l'homme. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, à part quelques idéologues, hein, ça n'a pas eu un gros succès sur la population. Le culte des cadères qui a démarré après Robespierre surtout, c'est-à-dire respect du décadi. Alors, il y avait qui respectait le décadi, d'autres respectaient l'ancien dimanche, mais il y a beaucoup aussi respecté à la fois le décadi et le dimanche. Bon, c'était Napoléon, en plus de ça, il a des zones de turbulence, hein, encore, tout n'est pas calmé. Donc il fait déjà la paix avec la Vendée en 1800. Et puis, il contacte le pape. Et donc, on aboutit à une concorde, hein, entre les deux. Mais attention, il y a un problème. Quelle Église? Est-ce que c'est l'Église constitutionnelle? Est-ce que c'est l'Église réfractaire? bien au plan des évêques, vous savez, on va pratiquer l'amalgame, mais avec une prédominance quand même nette du clergé réfractaire, c'est-à-dire du clergé le plus sectaire, on pourrait dire, finalement, par rapport à l'État. Quel concordat? Eh bien, on ne revient pas, toujours pareil, à l'histoire, ne ferme pas ses parenthèses, on ne revient pas au concordat du XVIe siècle. On ne revient pas au concordat de l'ancien. On garde les acquis de la Révolution française, le catholicisme est défini comme la religion de la majorité des Français, et non pas comme la religion de l'État. Également, on reconnaît, donc de la part du pape, il reconnaît en quelque sorte une certaine liberté de conscience. Enfin, il reconnaît du bout des lèvres. Par la suite, les autres, ses successeurs, reviendront là-dessus. Mais d'un autre côté, c'est quand même, on fait la part belle aux anciens, aux ultramontains plutôt, aux partisans, tant chez les catholiques qu'aux partisans de Rome. C'est un peu délicat, ça. Ça concerne l'histoire de la religion. Ils sont catholiques, c'est délicat. Alors, on obéit à Rome, comment obéir à Rome et obéir en même temps à l'État français. Bonaparte va adjoindre à ce concordat ce qu'on appelait les articles organiques, c'est-à-dire qui organisent la vie religieuse. Et là, par exemple, on exige de la part des évêques de présenter une autorisation, de faire une demande d'autorisation pour des conciles, pour se déplacer, etc. Et également, le Saint-Siège lui-même doit demander l'autorisation pour contacter, par exemple, l'Église de France. Alors, on a une espèce de marché, disons, entre l'aspect ultramontain et l'aspect gallican. Alors, lorsque la Restauration arrive, c'est-à-dire lorsque les Bourbons reviennent, eh bien, on pourrait penser qu'ils reviennent au concordat dans ces régions. Pas complètement. Il y a une chose qui disparaît, c'est le divorce. Dès 1816, suppression du divorce. Il était de 1792. Eh bien, ce divorce sera interdit en France en 1880. Bien sûr, il y a une modification très nette dans le sens, disons, de l'ancien régime. Notons également, en 1825, lorsque Charles X arrive au pouvoir, d'abord, Charles X se fait sacrer exactement dans le rite antique avec même la cérémonie des écrouelles. Hein, j'en avais parlé de cette cérémonie la semaine dernière. Eh bien, on rétablit en quelque sorte la loi du sacrilège. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura profané les hosties consacrées a puni de la peine de mort. Bon, rappelez-vous, la semaine dernière, l'affaire du chevalier de la Barre. Et justement, l'histoire qui accusait le chevalier d'Abar, on l'accusait de poignarder des hosties. Vous vous rappelez, il avait poignardé des hosties, il y avait du sang qui coulait. C'était absurde. Ce monitoire était complètement absurde. En fait, cette punition de peine de mort pour la profanation d'hosties ne va jamais être appliquée. Donc, en fait, le concordat établit incontestablement quand même une certaine laïcité. Il y a certains acquis. Par exemple, deux institutions verront leur autonomie. D'une part, l'enseignement. L'université créée par Napoléon, l'université de 1806, indépendante, vise. Les lycées, bon, il y a des questions, d'aumônerie, etc., mais les lycées échappent quand même vraiment la structure église, l'institution. Par contre, le primaire est surveillé étroitement par la hiérarchie catholique. En 1833, la loi Guizot permet la gratuité des écoles de garçons et donc les premières classes aussi d'écoles normales d'instituteurs. Donc on se dégage un petit peu du personnel ecclésiastique finalement. 1850, c'est la loi Fallou qu'il faut cette loi Fallou qui étanfie la gratuité. Et qui par contre contrôle les notables et les ecclésiastiques, sur les écoles primaires en particulier, et sur les jardins d'enfants, rappelez-vous, le fameux épisode de Richard Carpentier. Et bien, également, surtout, la loi Fallou établit le financement des écoles confessionnelles. Vous savez, c'était déjà apparu il n'y a pas tellement longtemps dans la vie politique. Je suppose que tu en parleras. Notons aussi une autre date, c'est entre 63 et 69, l'importance de Victor Duruy, qui est un historien qui rétablit l'enseignement de la philosophie, qui a été supprimé, vous le savez, par Napoléon, on avait supprimé, par lui, Napoléon Bonaparte, on avait supprimé carrément l'agrégation de philosophie, qui établit l'histoire également, ben, philo-histoire, ça permet la critique, donc c'est un peu gênant. Et donc Victor Duruy réorganise, donc dans un sens démocratique, l'université. Également, Victor Duruy l'organise de manière laïque. Et il étend l'enseignement secondaire aux sections industrielles et commerciales, et il fait une tentative d'enseignement secondaire pour les filles, hein, dans les grandes villes. Et ça ne sera que par la suite que ça va se généraliser. Alors, en fait, il y a des contestations qui apparaissent contre ce concordat. D'une part, la franc-maçonnerie, qui de plus en plus se détache de ses options religieuses, puisqu'elle aboutit jusqu'en 1877, le Grand Orient, qui supprime l'obligation de croire en Dieu. Attention, ça n'est pas de l'anti-Dieu, là, finalement. On est libre ou non, quand on est maçon, de croire ou de ne pas croire en Dieu. On sait aussi que certaines maçonneries, comme la maçonnerie écossaise, le rite écossais, qui est un vieux rite, et resté, je ne sais pas s'il est resté encore maintenant très théiste, mais du moins, au XVIIIe siècle, le rite écossais était franchement très proche de l'Église catholique. Donc, la maçonnerie. Autre contestation qui vient des protestants. Ça parle d'ailleurs de la marge, finalement. Parce que la hiérarchie protestante, elle joue le jeu du concordat. C'est plutôt... Alors, ce sont d'abord les non-conformistes. Et comme les protestants non-conformistes, c'est-à-dire essentiellement les méthodistes et les évangélistes, qui, eux, ne participent pas au concordat, ne sont pas connus par le concordat. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Alors que vous savez, les autres clergés sont payés. Le clergé catholique, le clergé calviniste, le clergé catholique, sont payés. Même encore en Alsace, vous le savez. Eh bien, donc, ce sont les protestants non-conformistes et des protestants qu'on appelle libéraux, dont un qui est nîmois, hein, c'est Samuel Vincent qui reconnaît le bienfait de la séparation de l'Église et de l'État, parce que ça permet d'être tranquille, en quelque sorte, de ne pas avoir tout le temps le contrôle de l'État sur le dos. Même, d'ailleurs, du côté catholique, son adversaire, dans de nombreuses joutes, c'est-à-dire la Menet, va arriver également aux mêmes conclusions. Vaut mieux être, vous savez, la phrase de La Fontaine, du chien et du loup, vaut mieux être libre que d'avoir, engraissé avec un collier autour du cou. Alors, également, mais surtout, c'est surtout un autre pasteur, Vinet, qui définit clairement, en quelque sorte, la séparation des Églises et de l'État. Aussi, la séparation absolue de la société religieuse et de la société civile, voilà ce que la rigueur du raisonnement, l'intérêt de la religion, la religion c'est la religion protestante, et celui de l'humanité nous permet de réclamer. Donc, pour ce courant protestant, qui est le courant libéral, il est évident que tôt ou tard, pour aboutir à la séparation des Églises et des États pour permettre donc un État laïque. Laïcisation également de la morale, et je vais en terminer par une expérience, celle de la Commune de Paris. Laïcisation de la morale dans le sillage de Kant chez les protestants avec lesquels comme Renouvier, qui dégage, propose en quelque sorte l'universalité fondée sur la raison aux particularités et également que la base de la morale, c'est la science. Donc, morale laïque, qui dit morale laïque, dit que les laïcs et les athées, à ce moment-là, peuvent se faire une place. Eh bien, le combat passe sur le plan politique avec le programme de Belleville, qu'il faut citer quand même, où ce programme de Belleville, programme du Parti radical de Gambetta, qui réclame donc la séparation de l'Église et l'État, de l'Église et de l'école. Et cette première tentative de séparation qui se fait sous la Commune de Paris. Parce que, non, c'est un texte. Le dernier texte. Donc, 10 ans avant Jules Ferry, la Commune de Paris lance l'idée, bien sûr, de séparation de l'Église et d'État et de l'école et d'État, donc c'est dans le sillage du programme de Belleville. Et il entre en application dans le second arrondissement, où la commission du second arrondissement va proclamer ce texte sous forme d'affiche. Et vous voyez qu'il oppose l'enseignement des congréganistes et il lie ces congréganistes à la monarchie, et l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire, qui s'incarne donc à partir de cette révolution. Et pourquoi ? Le but de cet enseignement, c'est finalement de s'adresser aux hommes contemporains, c'est-à-dire aux hommes de la révolution industrielle, et de s'attacher à la modernité, au contraire du syllabus de la papauté qui était de rompre complètement avec tout ce qui était moderne. Là, il faut justement prendre à bras le corps, en quelque sorte, la modernité. Dans le domaine de la science, les faits constatés indiscutables, et puis également référence à la raison humaine. Et donc, c'était cette première expérience que vous avez fait 10 ans, en quelque sorte, avant Jules Ferry, dont Michel Boissard vous parlera la semaine prochaine. Brève conclusion. Eh bien, il ne faut pas faire du concordat une espèce de retour brutal d'abord à la religion d'État. Il faut nuancer un petit peu cela. Et surtout, contre ce concordat, il y aura tout un travail de plusieurs origines, vu le Grand Orient, les minorités religieuses. J'ai parlé des protestants, les protestants libéraux, il a fallu parler également des juifs. Et puis alors, des athées. Et avec justement cette notion de séparation des églises-États et de l'école et de l'État. La séparation des États aussi importante, peut-être même plus que la séparation. La séparation de l'école avec l'Église sont aussi importantes que la séparation de l'Église et de l'État, puisqu'elle va sécréter justement et renforcer la séparation de l'Église et de l'État. À toi, le prochain parti. Merci.